Bonjour chers fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. Je suis Nani Totalani. Le suivi et la prise en charge du patient à distance par un professionnel de santé appelé télésurveillance et téléconsultation deviennent de plus en plus possibles grâce à la technologie. Concrètement, comment un médecin peut-il assister le patient? Comment le patient peut-il veiller à son propre suivi sanitaire? Comment les applications peuvent-elles améliorer la santé des populations en Afrique?
Apollo permet à tout individu d'avoir déjà son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura toutes vos informations en face de lui-même.
Sekou Cheikh Bomba, notre invité, répondra à ces questions. Il est le PDG de CBS Systems, compagnie basée en Virginie aux États-Unis avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur de l'application Santé Apollo. Après, nous vous proposerons Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Dans cette édition de Votre santé, votre avenir, nous allons nous entretenir avec Sekou Cheikh Bomba sur son application Apollo, un outil important pour la télésurveillance et la téléconsultation des patients.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour Cheikh.
Bonjour Nani.
Vous êtes le président fondateur de CBS Systems et c'est par le biais de cette société que vous avez créé votre première application appelée Apollo qui est destinée à améliorer la santé en Afrique. Comment vous est venue l'idée de créer cette application Apollo?
J'espère que je ne serai pas trop émotionnel ici. Je dirais que l'idée m'est venue à la suite de la perte de mon meilleur ami nommé Ismaël Grand-Bouté.
Que son âme
repose en paix. Nous avons fait le Maroc ensemble. Il était rempli d'énergie, en plus d'être une personne vraiment sociable. Et là, il a succombé à une crise cardiaque à 33 ans.
Il est mort au Maroc?
Et moi, en Côte d'Ivoire. Après les études, il est retourné au pays. Il a créé une entreprise. Et il a perdu la vie à 33 ans d'une crise cardiaque. Pourtant, il était plein d'énergie. Il était vraiment abattu.
Une fin vraiment tragique.
Sachant que notre ambition était d'améliorer l'Afrique depuis notre cursus universitaire ensemble. Donc, c'était comme si j'avais perdu un compagnon
de lutte.
J'étais vraiment touché. J'ai décidé d'éviter à tout Africain d'expérimenter la perte brusque d'un être cher.
Et vous avez pensé à une application santé?
Étant donné que j'étais un programme manager en data science, j'ai fait une analyse sur le personnel face au problème. J'ai approché le domaine de la santé de façon systémique. C'est ainsi qu'avec Idrissa Koulibaly, ici à Washington DC, durant nos séances de sport matinal, l'idée de créer Apollo a vu le jour. En créant Apollo, nous avons pensé plus grand que nous. Le monde continuerait après nous, alors il serait aimable de lui donner un outil qui puisse faciliter le futur pour les générations à venir et tout. Donc je suis certain qu'avec Apollo, mon meilleur ami n'aurait pas perdu la vie à travers une crise cardiaque.
Comment est-ce que l'application Apollo aurait pu lui éviter une fin si tragique, pas seulement à lui mais à d'autres personnes aussi?
Nous avons la traçabilité et le suivi médical à travers l'application Apollo.
Comment ça se passe?
C'est-à-dire, lorsqu'on vous permet de faire un bilan annuel de santé, on a toutes les informations, sachant de quoi vous souffrez et tout. On peut déjà vous donner des rappels. On peut vous prescrire un régime ou une activité physique à faire pour vous améliorer. Parce que les crises cardiaques, les AVC peuvent en fait vraiment, avec une hygiène de vie un peu plus stable, s'éviter. Apollo, avec cette traçabilité, pourrait régler tout cela. Nous appliquons le machine learning en fait.
Concrètement, comment se passe l'utilisation de l'application Apollo pour améliorer la santé des individus?
Je dirais d'abord, Apollo améliorera le système sanitaire de tout pays africain qui l'adoptera de 37% en 18 mois. Apollo est une application qui met en relation l'écosystème de la santé. Elle connaît aussi bien le médecin, le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc Apollo permet de créer une base de données fiable à jour des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des SERV en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, comme on le dit en fait en français, ça on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 francs. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. Nous avons Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Mom and Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'horizon de 2050, c'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses pour protéger la mère, pour protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ces malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire qu'il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin, entre la femme enceinte bien sûr et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore vous. Nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur. Pendant le quotidien de la grossesse, elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB System. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau la moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est embrassé, mythique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà censée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Je tiens tout à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CEMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense qu'en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce qu'il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais si possible.
Oui.
I have all my heart, all my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'autisme, trouble du développement qui commence dès l'enfance et dont les causes sont encore mal connues. En République démocratique du Congo, une école unique en son genre apporte du soulagement aux enfants handicapés. Enfin, est-il possible de créer un organe humain avec une imprimante 3D? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre émission Carnet de santé. Je suis ravie de vous retrouver. Difficulté à communiquer ou à interagir, activités et intérêts restreints ou répétitifs, ce sont certaines des caractéristiques des personnes atteintes d'autisme. L'autisme, ou plus généralement, les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du développement chez l'enfant. De plus en plus de parents reçoivent ce diagnostic chaque jour à travers le monde. La condition apparaît chez les enfants durant les 3 premières années de leur vie. Et selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, à peu près un enfant sur 59 a été identifié avec un trouble du spectre de l'autisme. La condition est environ 4 fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Pour en savoir davantage, nous joignons par Skype à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le docteur Anna Corinne Bissouma, pédopsychiatre et chef de service du centre MT Bonley. Docteur Bissouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, nous savons que l'autisme est défini comme un trouble du développement. Qu'est-ce que cela signifie exactement, notamment dans la vie quotidienne de ces personnes qui souffrent d'autisme?
En fait, l'autisme est un trouble du développement. On dit que c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'il y a une atteinte au niveau du cerveau qui rejaillit sur le développement psychologique, psycho-affectif de l'enfant. En fait, dans le quotidien, c'est des personnes qui ont du mal à comprendre les relations sociales, qui ont du mal à répondre, par exemple, à l'appel de leur nom, qui ont des difficultés dans la communication, qui ont des comportements qui ne sont pas variés, qui vont faire tout le temps la même chose, et puis parfois qui ont ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des gestes répétés ou des paroles répétées, voilà, avec beaucoup de perturbations au niveau du fonctionnement des sens.
Alors, les causes de l'autisme ne sont pas connues, de façon officielle. Y a-t-il des facteurs de risque ?
C'est vrai que les causes ne sont pas connues, et puis il y a des causes génétiques, mais ce n'est pas tout le temps les mêmes gènes qui sont en cause chez les personnes. Il y a des familles dans lesquelles l'autisme existe, donc là on peut penser qu'il y a effectivement une hérédité. Alors est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? C'est assez difficile à dire. Quand ça existe dans la famille, ça peut revenir. Il y a pas mal d'études qui ont évoqué, par exemple, le stress maternel, qui ont évoqué le diabète à un moment de la grossesse, qui ont évoqué l'absence de magnésium, par exemple. Mais il n'y a pas une cause. Voilà, il n'y a pas une cause.
Et nous avons des questions de nos téléspectateurs sur Facebook, notamment Alphonse Mbouaki qui écrit « Il faut que la culture africaine sorte les gens de l'ignorance et de l'obscurantisme, de croire que certaines maladies ont des sources occultes ou sorcières, par exemple la dépression mentale, l'épilepsie et l'autisme, sont traitables par la médecine moderne. Malheureusement, les croyances et coutumes africaines favorisent toujours les soins des tradis praticiens. » Votre réaction, docteur Bissouma?
Moi, j'ai souvent en consultation des parents qui évoquent des causes mystiques. C'est par exemple un démon qui tient ou un génie qui tient la gorge de l'enfant. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler. Il faudrait qu'en Afrique, on fasse beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus de formation aussi et d'information pour les populations pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a un démon, ce n'est pas parce qu'il y a un sort ou il y a un esprit, un génie, qu'un enfant qui avait commencé à parler arrête à parler. Voilà.
Docteur Bissouma, merci d'avoir répondu à nos questions. On estime qu'un milliard de personnes souffrent d'un handicap physique, mental ou psychologique. Environ 93 millions d'entre elles sont des enfants. Ces enfants sont souvent exclus de la société. C'est le cas en République démocratique du Congo, où de nombreux enfants souffrant de différents handicaps se retrouvent dans la rue ou dans des orphelinats sans soutien adéquat. Rendons-nous à Lubumbashi pour visiter la seule école qui les accueille à bras ouverts. Voici le reportage de Salwa Jafari.
Karibou, 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 vous êtes les bienvenus.
Ici, tout le monde l'appelle Mama Magui. Marguerite Moussolé a grandi dans le Congo colonial, produit du système d'enseignement belge, et les Congolaises avant tout, luchoises surtout. Elle incarne une diaspora avide de retourner à ses sources pour apporter des changements dans sa société d'origine, une petite révolution à la fois. Cette école privée, c'est sa petite révolution. Nous sommes dans le seul établissement à Lubumbashi qui accueille des enfants souffrant de handicap.
Voilà, on tient ses mains pour pouvoir lui montrer qu'elle est capable de pouvoir le faire, mais elle n'est pas capable. Donc, en l'accompagnant tous les jours, en faisant une routine, qu'elle arrive finalement à le faire. On les connaît mieux quand ils jouent que quand ils sont en classe. Alors, c'est comme ça qu'on les initie un peu à tout. Mais en même temps, c'est thérapeutique.
Dans chaque classe, 2 à 3 enfants à besoins éducatifs spécifiques. Des autistes, des enfants trisomiques, des enfants souffrant de 16 pathologies différentes qui interagissent avec leurs camarades. Les classes sont volontairement réduites afin de garantir un accompagnement aussi personnel que possible.
Nous encadrons 195 personnes vivant avec handicap mental, donc des besoins particuliers. Et ils sont catégorisés en 16 pathologies, dont la majorité est trisomique 21 et autiste.
Pour ce faire, elle se base sur des méthodes qu'elle a apprises au fil des années. Pour mieux accompagner les enfants autistes, par exemple, elle n'hésite pas à rentrer en contact avec des experts aux États-Unis. Les dernières avancées, elle les partage aussitôt avec ses enseignants.
d'entrée de jeu, dès qu'un enfant arrive, la toute première des choses, on commence par une consultation. Et c'est à l'issue de la consultation qu'on sera déterminé les difficultés de l'enfant. Et c'est à partir des difficultés qu'on aura maintenant à établir un projet thérapeutique.
Sans l'école, je ne peux pas vivre.
Qu'est-ce que tu apprends à l'école?
J'apprends la lecture, l'numération, l'opération.
Avec peu de moyens, l'école fait des miracles. Comme ce petit garçon qui n'arrivait pas à marcher quand il a été admis à l'école et qui peut aujourd'hui affronter fièrement les marches d'un escalier. Ou Yannick, dont le vocabulaire a énormément évolué depuis son arrivée. Dans quelques années, Yannick rejoindra peut-être cet atelier de menuiserie dans un autre local pour les enfants plus âgés, ou apprendra la couture. L'idée est aussi d'inculquer un métier à ces enfants souvent rejetés par la société.
La société a difficile à accepter les genres d'enfants. Les enfants qui ont chacun ces manques de pourcentage, je reviens encore, le pourcentage en lui. Donc la société, la plupart, en général, la société rejette un peu, repousse ces genres d'enfants. Mon fils, c'est... D'abord, c'est un enfant très merveilleux. Oui, merveilleux.
Des enfants merveilleux. Mama Maggie a hâte que toute la société congolaise les voie ainsi. Que le gouvernement leur accorde plus d'attention. Mais pour une victoire contre l'ignorance, ces enfants, il faut d'abord les aimer.
Selon une analyse de la Banque mondiale, veillez à ce que les enfants handicapés en Afrique subsaharienne aient la possibilité d'aller à l'école devrait être une priorité afin de faire face aux conséquences souvent dramatiques dont ils sont victimes plus tard dans la vie. Les bio-ingénieurs travaillent sur des tissus imprimés en 3D qui pourraient un jour être implantés chez l'homme. Le tissu imprimé en 3D est un progrès considérable vers des organes de remplacement dont l'impression se ferait à partir des propres cellules du patient. Regardez.
Ces bio-ingénieurs essayent d'imprimer en 3D des tissus de remplacement pour humains fabriqués à partir de leurs propres cellules.
Nous savons qu'il existe des millions de personnes dans le monde qui pourraient bénéficier d'une réserve d'organes disponibles et biochimiquement compatibles.
Le défi consiste à créer des structures vasculaires complexes qui maintiennent les cellules en vie en absorbant les nutriments et l'oxygène dans les tissus et en évacuant les déchets. Jordan Miller fait partie d'une équipe qui a développé une bio-imprimante 3D. Ils utilisent un matériau hydrogel couramment utilisé dans la recherche. La matière liquide se transforme en un gel souple et solide lorsqu'une lumière bleue brille dessus. Un colorant alimentaire jaune absorbant la lumière est ajouté afin que seules certaines parties deviennent solides, créant ainsi des structures vasculaires complexes.
Cela permet aux gens de faire cette impression des tissus très rapides avec une architecture très complexe, avec des cellules vivantes dans un matériau d'hydrogel doux dans lequel vous pouvez les cultiver.
Ce sac respiratoire imitant les poumons montre ce que l'imprimante 3D peut faire. Avec de l'oxygène et du sang à l'intérieur, tout semble parfaitement fonctionner. Pour vérifier si les cellules peuvent fonctionner et survivre dans un tissu hydrogel imprimé en 3D, les chercheurs les ont implantés dans des souris atteintes d'une lésion du foie. Les cellules du foie ont survécu à l'implantation. Des cellules supplémentaires porteront sur l'impact d'un tel implant sur la santé des souris. Et selon Miller, ce n'est que le début de la quête visant à créer des structures encore plus complexes du corps humain qui non seulement ressemblent à l'original, mais fonctionnent comme si elles étaient réelles.
Donc, je m'attends à ce que dans notre vie, nous ayons des organes de remplacement pour les humains.
Miller est optimiste quant à l'avenir de l'utilisation de cette technologie pour construire des tissus humains vivants en vue d'une éventuelle implantation. Et peut-être même un jour, les médecins pourront imprimer des organes, des remplacements avec des cellules du corps du patient.
C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Musique, hein.